Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir aux cyberattaques. À l'ordre du jour ce soir, comment les institutions se remettent-elles des cyberattaques? Ces dernières semaines, la France a connu des attaques contre les lycées, après celles qui ont frappé des hôpitaux, des mairies petites ou grandes, des mutuelles, des services gouvernementaux et tout récemment, les services de France Travail, anciennement Pôle Emploi. Elles ont toutes pris des chemins très différents, on en discutera, mais même si ces organismes s'y sont préparés, elles laissent généralement un goût amer à leur direction. Car une fois ces structures attaquées, les données qui étaient conservées se dispersent sur le dark web ou ailleurs, et elles y deviennent évidemment monnayables. Qu'en est-il ensuite au lendemain de ces attaques, de la confiance à retrouver en interne dans les institutions et à restaurer aussi entre ces institutions publiques et parapubliques et les usagers qui les fréquentent? Nous allons en discuter avec nos trois invités. Gloria Origi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, chercheuse au CNRS, à l'Institut Jean Nicot. Vous venez de publier « La vérité est une question politique ». C'est sorti au début du mois de mars chez Albin Michel, mais vous étiez aussi l'autrice en 2008 chez Vrin de votre premier essai « Qu'est-ce que la confiance ?» On parlera de confiance, évidemment, avec nos deux autres invités. Véronique Anatole Touzé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale du CHU de Rennes, qui a été cyberattaqué en juin 2023. Et avec nous également, Jean-Yves Marion, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur à l'Université de Lorraine, spécialiste de cyberattaque, de logiciels malveillants et membre de l'Institut universitaire de France.
Ce qu'on a constaté en 2023 révèle... C'est une menace qui augmente dans toutes ses composantes. De l'espionnage, très ciblé sur les entreprises stratégiques, les administrations. De l'extorsion, du crime organisé qui cherche à faire de l'argent par des cyberattaques. Du sabotage ou de la déstabilisation par une myriade d'acteurs. Et cette augmentation, elle est dans la quantité des attaques, plus de 30%, dans la variété des cibles. Et c'est là que
on
ça nous concerne tous.
On peut tous être visés.
On n'a plus besoin aujourd'hui d'être une cible pour être une victime de ces cyberattaques. Ça veut dire que, en particulier, le volet criminel, parce que parmi les gens qui nous attaquent, il y a des États, mais il y a aussi du crime organisé qui cherche à faire de l'argent, qui paralyse des systèmes d'information, qui vole des données, qui essaye d'extorquer des rançons contre la non-publication des données, contre la libération des systèmes d'information qu'ils ont paralysés. Et ces attaquants-là, le crime organisé, aujourd'hui, ils attaquent de manière massive. Ils se sont outillés pour attaquer de manière massive, pour attraper tout ce qu'ils peuvent. Et en particulier les plus fragiles. Donc ce qu'on voit dans ce panorama, c'est en particulier des PME qui se font attaquer, des collectivités, des établissements de santé, de plus en plus des associations. Et donc ça, c'est pas forcément des gens qui peuvent payer une rançon.
Vous venez d'entendre le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, Vincent Strubel. Il était au micro de France Info il y a un mois. Il faut peut-être déblayer le terrain d'une certaine manière. Jean-Yves Marion, vous qui enseignez à l'école des mines de Nancy, qui avez été responsable d'un projet qui s'appelle DEFMAL, de programme de recherche en cybersécurité, pour nous expliquer ce que sont ces cyberattaques et quelles sont les variétés de ces cyberattaques, parce que toutes ne se ressemblent pas et on ne peut peut-être pas toujours les appeler des cyberattaques. Ainsi, par exemple, ces attaques qui ont eu lieu, qui ne sont peut-être pas des attaques, d'ailleurs, dans les écoles récemment et qui ont inquiété beaucoup de parents et d'élèves.
Oui, vous avez bien raison. Et comme le dit M. Strudel, il y a différents types de cyberattaques. Les premiers, les plus classiques, plus assez anciennes, sont les attaques de la forme fraude au président. On en reçoit souvent avec, par exemple, un SMS ou un courriel de hameçonnage. Après, il y a aussi le harcèlement, le cyberharcèlement. L'exemple que l'on a actuellement, c'est celui des écoles et des problèmes des ENT, hein, des espaces numériques de travail qui ont été compromis. Et puis après, il y a d'autres types de cyberattaques. Celles que l'on entend beaucoup, ce sont les rançongiciels. Je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, en particulier avec le CHU de Rennes. Et puis, les différentes formes, et là, on ne se rend pas compte, parce que souvent, c'est très, très caché et invisible, ce sont le cyberespionnage, voire le cybersabotage, comme ça a été dit en introduction. Ce qui est vraiment... Il faut aussi comprendre que tout le monde est une cible. Vous, moi, mais aussi les associations, les écoles, les universités, les hôpitaux, les petites entreprises. On voit beaucoup de petites entreprises qui se font attaquer, aussi bien que les grands groupes qui ont aussi des beaucoup de défenses.
Avec évidemment une menace en augmentation, comme le disait à l'instant même Vincent Strubel dans cet extrait de l'entretien qu'il avait donné à France Info il y a un mois. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Véronique Anatole Touzé, en tant que directrice du général du CHU de Rennes ?
Bien, écoutez, nous avons été effectivement victimes d'une cyberattaque le 21 juin l'année dernière. Donc, elle a été détectée via un compte de prestataire qui, jour et nuit, fait de la surveillance pour notre compte, via un compte en fait de télémaintenance d'un logiciel d'imagerie. Et donc, nous avons pris la décision très, très rapide. Et je crois que c'est ça qui a permis, d'ailleurs, de limiter les dégâts, notamment sur le fonctionnement des soins, puisque nous avons pu assurer la continuité de prise en charge des patients. Nous avons pris la décision d'une coupure Internet générale pour l'ensemble du CHU, donc qui a eu son système d'information totalement isolé de l'extérieur pendant 4 mois.
C'est beaucoup, 4 mois.
Parce que nous avons mis 4 mois pour pouvoir retrouver un fonctionnement normal de toutes nos applications. Sachant que, je le répète, c'était un point très important par rapport à d'autres cyberattaques, il n'y a pas eu de problème dans la continuité des soins des patients, puisque notre dossier patient a continué à être activé, tous nos équipements médicaux en réanimation dans les blocs opératoires ont pu continuer à fonctionner normalement. En revanche, le CHU était totalement isolé, donc plus de communication par mail, plus de possibilités pour les patients de prendre rendez-vous sur Internet, etc. Donc on a dû mettre en place des procédures dégradées.
Qu'est-ce qu'on se pose comme question ? J'imagine que vous avez un service à l'intérieur qui s'occupe de ces questions en tant que CHU, mais qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on est comme vous, directrice générale d'un CHU, et qu'on se voit attaquer alors que l'on sait que d'autres CHU avant vous l'ont été, et parfois que les dégâts étaient bien plus considérables que ceux que vous venez de nous décrire ?
La première question, c'est on pense aux patients, c'est-à-dire que notre premier objectif, et c'est la raison pour laquelle, sur le conseil de mon direction du système d'information, on a pris la décision de s'isoler d'Internet parce qu'on savait que c'était la priorité, c'est-à-dire de sauvegarder la continuité des soins pour les patients qui étaient hospitalisés ou en prise en charge, en réanimation, dans nos blocs opératoires, dans toutes nos salles techniques. Donc on pense d'abord aux malades, d'abord. Ensuite, évidemment, on réunit une cellule de crise très rapidement pour prendre les décisions qui s'imposent pour pouvoir rétablir progressivement les applications qui ont pu être donc immobilisées du fait de cette coupure Internet, puisque au CHU, on a un nombre d'applications très important, 369, 1200 serveurs, 7000 PC, 10 000 comptes utilisateurs. Donc, bien évidemment, ça prend du temps pour pouvoir remettre en fonctionnement de manière sécurisée tous ces serveurs et tous ces logiciels qui permettent au CHU de revenir à un fonctionnement normal.
Et ça, c'était un rançongiciel.
Il faut mettre en place des procédures dégradées pour pouvoir permettre aux patients comme aux professionnels de leur garantir la continuité des soins pour les patients, une prise en charge évidemment adaptée, et en même temps aux professionnels de pouvoir continuer à travailler dans les meilleures conditions.
Et qu'est-ce qu'on vous demandait ? On vous demandait de l'argent contre justement cette coupure Internet, contre cette attaque qui avait été développée contre le CHU ?
On a eu une menace de diffusion sur le dark web un mois après la cyberattaque de l'ensemble des données qui ont été dérobées. Donc il y a eu environ 300 gigaoctets de données dérobées, des données de patients du centre de soins dentaires, des salles techniques de cardiologie, des examens aussi de biologie. Pas la totalité des données patients. Il y a eu également des données relatives aux professionnels, des données comme les bulletins de salaire, comme les numéros de sécurité sociale de nos professionnels. Donc on a eu cette menace de diffusion qui n'a finalement pas eu lieu et nous n'avons pas eu de menace de rançon, contrairement à d'autres hôpitaux. Il faut s'en réjouir, mais effectivement, en tout cas, ça a été une période très évidemment éprouvante pour tous et toutes. Mais que nous avons pu passer avec bons résultats au regard de ce qui a pu se passer dans d'autres établissements.
Gloria Origi, vous n'êtes pas du tout spécialiste de questions de cyberattaque, mais néanmoins, vous êtes philosophe, vous avez travaillé à la fois sur la vérité pour votre dernier livre et sur un livre plus ancien sur la question de la confiance. On a voulu mettre cette question au cœur de cette discussion parce qu'on s'est dit, ça ne m'est pas arrivé, mais je serais patient, j'aurais mes données qui seraient envoyées sur le dark web, je serais inscrit à Pôle emploi, et peut-être c'est le cas d'ailleurs, mes données se retrouvent un peu partout, je serais peut-être un peu ennuyé d'avoir été ainsi hacké et donc avec toutes mes noms, numéros de téléphone, etc., etc., qui seraient en train de naviguer un peu partout. On se dit, il y a une question de confiance entre les institutions à qui on fait confiance et puis effectivement soi-même.
Absolument, et c'est vrai que, enfin, je suis pas du tout une spécialiste, mais dès que vous m'avez invité, j'ai tout de suite commencé à lire, parce qu'il y a un problème philosophique, enfin, intéressant, justement, sur la confiance, à qui on peut faire confiance. Et d'ailleurs, je lisais un article intéressant qui disait, les cyberattaques, il y a 20 ans, ça semblait que ça pouvait devenir un moyen de coercition. Ça veut dire, on contrôle, enfin, nous, les méchants, contrôlons vos données. Et en fait, on peut, disons, changer radicalement la société, une espèce de société orwellienne de contrôle total. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que les cyberattaques sont devenues plutôt un moyen de subversion. Enfin, il y a une partie de crimes organisés. Enfin, on demande de l'argent, des rançons, etc. pour les données qu'on arrive à pirater. Et puis, il y a du terrorisme classique, politique, enfin, de créer. Et quel est le terrorisme qu'on fait? Enfin, on sait bien qu'il y a des pays qui organisent ces formes de terrorisme en ligne en termes de cyberattaques. On enlève la confiance aux institutions, disons, des pays démocratiques, etc. On réduit la confiance des citoyens. Puis, il faut voir, la confiance est une notion compliquée. Donc, il y a des cas dans lesquels nous ne pouvons pas ne pas faire confiance. Enfin, si vous demandez aux gens, est-ce que vous avez confiance dans les banques? On avait fait l'expérience d'ailleurs. Les gens vous disent non. Enfin, les banques sont tous des voleurs. Enfin, c'est des gens qui profitent. Puis, si vous demandez aux gens s'ils ont un compte en banque, tout le monde a un compte en banque. Enfin, donc, il y a un rapport un peu ambivalent avec la confiance. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt et aussi, voilà, de préoccupation le cas de l'hôpital de Rennes. Et en fait, là aussi, quelle est la possibilité de... Enfin, ça crée, disons, une atmosphère de méfiance généralisée qui ne peut pas quand même réaliser un changement véritable des comportements, parce que de l'hôpital on a besoin, il n'y en a pas non plus 35 à Rennes, donc vous voyez, enfin, donc on est obligé à se fier d'institutions auxquelles au fond on ne peut plus faire confiance. Donc c'est une façon vraiment politique de
travailler,
de créer une espèce d'atmosphère de méfiance généralisée.
Ouais, et c'est cela que cherche justement une partie de ceux qui pratiquent ces cyberattaques, Jean-Yves Marion, c'est-à-dire de déstabiliser, de rendre ces sociétés démocratiques ouvertes un peu plus méfiantes qu'elles ne l'étaient auparavant.
Alors, la situation est compliquée. Je pense qu'il y a de la cybercriminalité qui, elle, cherche juste à gagner de l'argent, hein, c'est tout. Et d'ailleurs, si les données du CHU de Rennes, 3D 300 gigas, ont été exfiltrées et mises sur le darknet ou le dark web, elles seront peut-être vendues ailleurs et ainsi, ils auront gagné de l'argent. À côté de cela, il y a effectivement certains États qui utilisent la menace cyber et parfois une certaine porosité entre les cybercriminels et on va dire des cyber-attaquants qui viennent d'États pour déstabiliser, pour menacer, pour essayer d'un peu de contrôler ou même parfois de désinformer nos sociétés.
Mmh. Oui, on a vu récemment effectivement Anonymous Soudan qui est apparu et avec des revendications et mettant en difficulté effectivement certaines de nos démocraties. Vous vouliez réagir, je crois, Véronique Anatole.
Oui, je voulais juste réagir sur la situation, enfin le thème de la confiance envers l'hôpital public, en particulier universitaire. C'est-à-dire que je pense que dans les périodes de gestion de crise, la confiance, elle nécessite, comme en temps au quotidien, de la transparence. Et je pense que ce qui a permis que nous n'ayons pas d'impact majeur dans le fonctionnement de notre hôpital, c'est non seulement la confiance habituelle de la population dans la qualité des soins qui est optimale au CHU de Rennes, la communication que nous faisons régulièrement aussi sur nos activités et aussi la transparence dans la gestion de la crise. C'est-à-dire que nous avons fait très, très régulièrement et très vite, évidemment, dès le soir même, une information sur ce qui se passait aux patients, à l'ensemble de nos professionnels, bien évidemment. Et je pense que cette transparence, y compris dans la gestion de crise, je pense que c'est aussi un élément de la confiance. Et effectivement, notre philosophe a évoqué le fait que, par définition, on doit faire confiance à l'hôpital, parce que parfois on n'a pas le choix, notamment dans les situations d'urgence. Mais je pense que cette confiance dans les institutions, finalement, c'est quelque chose qui doit se faire au quotidien à travers justement cette transparence sur les difficultés comme les succès à l'hôpital comme dans d'autres institutions.
Jean-Yves Marion.
Oui, sur la question de la confiance, c'est compliqué, parce que si on prend l'exemple de la banque, que l'on comprend tous, c'est peut-être trompeur par rapport au numérique, à l'informatique. Parce que les données, on parle sur, là, le problème vient des données. Les données vont être exfiltrées, elles vont être chiffrées, on va plus les avoir, on va nous les voler, etc. Mais d'un autre côté, nous-mêmes, dans nos pratiques numériques, on accepte que nos données soient regardées par Google, par Amazon et d'autres. Et à la fois, on est choqué si, par exemple, on perd 300 gigas de données d'un hôpital, etc.
Donc, alors que nous-mêmes les répondons volontairement, voilà, d'une certaine manière, en signant les conditions d'utilisation.
Exactement. Et une des raisons, pour moi, c'est que c'est extrêmement difficile de comprendre ce que c'est ces données, parce que c'est pas quelque chose de physique, comme de l'argent, qui sont des billets. On comprend tous ce que c'est. Mais là, c'est différent. Et il y a un souci, je pense, d'éducation, de formation, de la compréhension de qu'est-ce que c'est que ce monde numérique.
Et cela, effectivement, savoir ce qu'est ce monde numérique, Gloria Origi, ça nécessite aussi d'avoir peut-être soi-même expérimenté à un moment ou à un autre telle ou telle usurpation d'identité, telle ou telle fraude à sa propre identité, et donc à partir de ce moment-là, d'être déjà plus ou moins averti de ce qu'on peut faire avec ces données qui se trimballent dans la nature.
Oui, en fait, le monde du numérique, en général, c'est un monde. Moi, je suis assez âgée pour l'avoir vu comme ça, monter dans les pratiques quotidiennes de nous tous. Et c'est un monde qui demande de la confiance. Enfin, on ne peut pas se promener sur Internet sans faire confiance à
beaucoup
à plein
d'acteurs,
de choses.
À beaucoup d'acteurs.
Moi aussi, je suis une chercheuse, mais bon, quand je commence une recherche, je commence à chercher des articles sur le sujet. Et je vais très, si je fais confiance, je vais très vite parce que je traverse, je sais pas, je peux consulter
des dizaines
30
de
articles, 40 articles en une demi-heure parce que je fais confiance au fait que c'est des articles sérieux, etc., selon les sites, enfin, et tout ça, c'est basé sur la confiance. Donc, en fait, c'est un environnement qui
induit,
qui nécessite de la confiance. Et donc, la confiance est liée
à la
philosophie, au concept de vulnérabilité. Donc, c'est un environnement dans lequel nous sommes vulnérables parce que nous devons mettre de la confiance. Et donc, pour éviter ces vulnérabilités, c'est très difficile. Enfin, je veux dire, j'ai fait des expériences avec mes étudiants. Encore, par exemple, on demande aux gens s'ils seraient disponibles à donner leurs données sur Internet. Et tout le monde répond non. Enfin, 95%, c'est non. Puis, on les met dans une situation de navigation sur leur portable dans laquelle ils doivent donner des données personnelles parce qu'ils doivent trouver l'adresse d'un restaurant et tout le monde donne les... C'est un peu comme l'histoire de la banque de tout à l'heure. Donc, il y a cette espèce disons, étant donné qu'on est dans des situations où notre confiance est déjà engagée, c'est pas un choix. Je saute dans la confiance ou je me retire. Je fais un contrat de confiance ou je me retire. Très souvent, on n'a pas d'alternative que de faire confiance pour pouvoir profiter du médium, enfin de, et donc on se retrouve à être très vulnérable.
Vous écoutez Le Temps du Débat. Comment les institutions se remettent-elles des cyberattaques? C'est la question que nous posons à nos trois invités. Véronique Anatole est directrice générale du CHU de Rennes qui a été attaquée l'année dernière. Jean-Yves Marion est professeur à l'Université de Lorraine et spécialiste en cyberattaques et logiciels malveillants, membre de l'Institut Universitaire de France. Et Gloria Origi, que vous venez d'entendre, est philosophe, chercheuse au CNRS, à l'Institut Jean Nicot. Elle travaille sur la vérité en tant que philosophe, mais également elle a travaillé il y a quelques années sur cette question de la confiance avec ses étudiants et étudiantes.
Là, j'ai récolté une petite minute de votre voix, de votre intonation, de vos expressions. Je vais nourrir un moteur d'intelligence artificielle dont le but est de répliquer votre voix à ma demande et en temps réel. Je vais avoir un outil dans lequel je vais parler et il va transformer ma voix dans votre voix.
Par exemple, si vous appelez ma responsable RH, ressources humaines, vous pouvez lui demander quoi?
Par exemple, la première chose que je ferais, c'est je dirais, Monique, est-ce que c'est possible que tu mettes à jour mon IBAN pour mes virements? Je viens de changer de banque parce que j'ai acheté un nouvel appartement et du coup, on a ma banque, ce nouvel banque avec un IBAN. Est-ce que je peux te l'envoyer maintenant? Elle va répondre, bien sûr, pas de problème. Annaëlle, envoie-moi-le à mon adresse email. Et là, en utilisant un autre système pour pouvoir falsifier l'adresse email, c'est extrêmement facile, on le fait depuis plus de 20 ans. Je vais envoyer un email à Monique avec mon IBAN à moi, le hacker, avec mon numéro d'IBAN. Par contre, ce sera écrit en dessous votre nom et votre adresse. La RH n'y verra que du feu, parce qu'elle a eu confiance et elle m'a parlé il y a 5 minutes. Enfin, elle a parlé à Annaëlle il y a 5 minutes.
Et c'est vous qui allez percevoir tous mes salaires.
Exactement, ça tombera dans une banque quelque part, jusqu'à ce que vous vous en rendiez compte.
France Culture, Le Temps du Débat. Emmanuel Laurentin.
Un extrait d'un reportage diffusé samedi dernier sur France Inter dans l'émission N'arrête pas l'écho. Est-ce que une des difficultés, Jean-Yves Marion, ce n'est pas qu'au bout du compte, eh bien, les cyberattaquants sont plus habiles, plus rapides, ont des méthodes qui sont très en avance sur ceux qui doivent les combattre?
Non, c'est pas le problème. Je pense que les défenseurs maîtrisent souvent bien mieux la science, la technique, l'ingénierie. La difficulté, elle n'est pas vraiment là, parce que même dans l'exemple que vous avez donné, la manipulation par la voix, on voit que, au fond, qu'est-ce que l'on a? On a une manipulation sur l'humain, hein. On peut dire qu'on a hacké l'humain en faisant une sorte de fraude au président, encore une fois, en me faisant passer pour quelqu'un d'autre. Et on se retrouve, encore une fois, sur l'humain. Quelle que soit, on va dire, la qualité des défenses, le niveau d'antivirus, de tout ce que vous voulez, ça se reporte sur l'humain.
Et donc, c'est la confiance dans son alter ego, d'une certaine manière, qui peut être mise en cause. Est-ce que cela, vous l'avez vécu, justement, au CHU de Rennes, dont vous êtes la directrice générale? Parce qu'il y a bien l'externe, on a compris, les patients, vous dites, ils n'ont pas, leurs données n'ont pas été, enfin, l'hôpital ne s'est pas interrompu et donc leurs soins ont pu être poursuivis. Mais il y a aussi l'interne. Vous disiez que, eh bien, tout un tas des personnes qui travaillent au CHU avaient vu leurs données sortir d'une certaine manière. Est-ce que ça ne pose pas des problèmes en interne, en gestion de l'institution elle-même?
Si, tout à fait. Et je crois justement c'est très important, comme je le disais, de donner les informations aux professionnels, de ne pas leur cacher la vérité. Donc on a très très vite informé tous les professionnels de leurs données personnelles qui étaient susceptibles de se retrouver sur le darknet. Et aussi on a fait des appels à la vigilance. Et bon, je pense qu'effectivement la confiance elle doit exister par rapport au développement des outils numériques. Je pense qu'en médecine, en particulier, on parlait d'intelligence artificielle. À titre d'exemple, au CHU de Rennes, on co-construit des logiciels d'intelligence artificielle parce qu'on estime que demain, ce seront des outils d'aide à la décision pour les médecins très importants. Mais en même temps, il faut renforcer la vigilance. Je pense qu'une autre notion face à la confiance, c'est la vigilance de l'humain, des populations, qu'il s'agisse des professionnels de santé, des patients pour un hôpital, pour leur rappeler les règles, justement, d'éviter le hameçonnage, d'être très vigilant sur les adresses, mails, etc. Et ce travail permanent de sensibilisation des professionnels comme des patients au risque, je pense qu'il doit être vraiment très, très régulier.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas tomber dans une sorte de...
des mots de passe très régulièrement. Oui. Donc, je pense que c'est une des pistes pour essayer de limiter les impacts négatifs de l'usage du numérique. Ça n'évitera pas, évidemment, les cyberattaques et le risque zéro n'existe pas. Mais en tout cas, je pense que le développement du monde numérique va avec le développement d'un comportement humain qui doit être beaucoup plus vigilant et avec des recommandations que doivent donner les institutions vis-à-vis de leurs professionnels, justement pour les protéger. Évidemment, pas totalement, puisqu'on n'y arrivera jamais totalement, mais en tout cas, les sensibiliser et leur faire passer les recommandations nécessaires en termes de comportement humain, justement, par rapport à l'usage du numérique. Et une éducation au numérique qui me semble être nécessaire aussi par les institutions pour, justement, prévenir le mieux possible les risques, ou en tout cas essayer d'y faire face, même si on n'évitera jamais, évidemment, ces cyberattaques.
Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être dans un optimisme béat ou un technosolutionnisme, comme on dit généralement, c'est-à-dire penser que la technique va résoudre tous les problèmes justement liés au développement de ces moyens informatiques et numériques. Gloria Origi, qu'est-ce que vous pensez justement de tout cela?
Moi, je suis plutôt une optimiste dans le sens que même les cyberattaques qui sont dangereux, violents, ils ont touché des centaines de millions de personnes ces dernières années, mais ils n'ont pas fondamentalement changé justement la structure de notre société. Enfin,
il n'y a pas un risque qu'on devienne plus...
Moi, je pense qu'on va s'habituer. Enfin, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut, je suis absolument d'accord avec Véronique, enfin, il faut une éducation au numérique. Enfin, c'est pas, moi, je pense que c'est pas la peine d'empêcher les jeunes d'aller sur leur téléphone. C'est plutôt important de leur apprendre à comment utiliser leur téléphone. Donc, un message de la banque, qui vous dit « donnez-moi votre IBAN », etc. Enfin, donc il faudrait avoir une liste, une espèce de liste de cas typiques, enfin, dans lesquels on peut tomber, et tous, enfin, et d'arnaques typiques, enfin, qu'on connaît et qu'on fait. Mais je pense que les gains sont tellement plus importants que les dégâts, enfin, d'utiliser le numérique. Enfin, on est au début de l'utilisation du numérique. Ça fait 25 ans qu'on utilise le numérique. Vous pensez qu'est-ce que ça sera dans 100 ans? Enfin, moi, je ne crois pas que ça va devenir une poubelle habitée que par des terroristes
et des voyous
et des fake news, etc. Je pense qu'on s'adaptera très bien à cette transformation majeure. Enfin.
Jean-Yves Marion.
Oui, je vous répète, le pessimiste, on est le lundi de Pâques, mais si je pense pas que le numérique devienne poubelle dans le sens des cybercriminels, néanmoins, ce que l'on se rend compte, et c'est très surprenant, peut-être pour beaucoup d'entre nous, c'est que ce qui est important ici, c'est la donnée. Mmh. C'est-à-dire qu'on est complètement, nous, définis, vous aussi, les auditeurs, par les données qu'ils passent au travers... quand ils vont naviguer sur Internet, lorsqu'ils vont utiliser leur application sur leur smartphone, etc., ou celles qui vont être exfiltrées par des cybercriminels, quelles que soient pour des motivations financières ou pas d'ailleurs. Et tout ça, ça permet de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on veut acheter, qu'est-ce qu'on pense, pour qui on va voter, quel type de maladie on a, ou quel type de maladie on va avoir en plus. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas vraiment, tout simplement... Parce que scientifiquement, il y a une bombe scientifique qui s'appelle l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, qui aujourd'hui permet de traiter toutes ces données qui sont en quantité faramineuse.
Et plus rapidement, effectivement, que des êtres humains auparavant.
Plus rapidement, et surtout de faire des corrélations qui étaient totalement impossibles avant. Si vous prenez un policier à l'ancienne avec son carnet façon Maigret, par exemple, vous voyez que là, l'ordinateur est capable de prendre des millions, des milliards de carnets ensemble et de voir des liens que personne n'aurait jamais vus avant.
Justement, de votre côté, est-ce qu'on peut dire, Véronique Anatole, que vous avez, disons, pris des leçons de cette attaque que vous avez vécue collectivement au CHU de Rennes l'année dernière, et que non seulement en termes de protection informatique de votre institution, mais aussi de la manière de se comporter, de la manière de réfléchir, de réagir à l'intelligence, parce qu'il y a aussi de l'intelligence de ceux qui vous attaquent, à l'intelligence de ceux qui sont de l'autre côté, vous avez pensé des choses très différentes de ce que vous pensiez auparavant.
Alors oui, effectivement, on en a tiré des leçons, mais peut-être avant les leçons, je voudrais rappeler que ce qu'il faut aussi, c'est s'y préparer. Et donc, on avait eu la chance de faire des exercices de cyberattaque, comme on fait des exercices de plan blanc très régulièrement. Et je pense que cet exercice a été très utile pour mieux gérer la cyberattaque, peut-être que d'autres établissements. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que il faut absolument avoir un travail technique de sécurisation de nos systèmes d'information. Nous étions dans le tiers, on va dire, des établissements dits les mieux préparés, parce que nous avions eu un audit de cyberdéfense, de cyberattaque, qui montrait tout le travail que nous avions encore à faire hein, pour sécuriser sur le plan technique tous nos serveurs, sur la question aussi des habilitations, etc., pour évidemment pouvoir ou pas accéder aux données de l'établissement. Donc toutes ces questions de sécurisation du système d'information, ce qui suppose des compétences aussi en interne, et c'est une des leçons aussi de cette cyberattaque, c'est d'avoir des compétences d'ingénieurs système, d'avoir des équipes évidemment qui sont non seulement parfaitement formées, mais aussi aptes aussi à réagir très rapidement et aptes aussi à prendre les décisions, évidemment sous l'égide d'une cellule de crise où il y a aussi des médecins, bien évidemment, et la direction, mais de mener des étapes pour pouvoir revenir à la normale dans la gestion d'une cyberattaque. Donc les leçons, c'est évidemment premièrement de poursuivre ce travail de sécurisation du système d'information. L'autre leçon, c'est ça, je pense qu'on l'a peut-être plutôt bien fait, c'est la communication immédiate, la transparence. On a fait plusieurs communiqués de presse très réguliers, on a communiqué dans les médias auprès de nos professionnels très. Donc on a utilisé d'ailleurs nos outils de plan blanc, hein, le SMS à tous les professionnels, etc. Donc ça, cette communication permanente, je pense c'est une leçon très importante. Et puis on parlait là des données. La donnée médicale, en plus, c'est une donnée qui doit être sécurisée. Nous avons la chance en Europe d'avoir ce qu'on appelle le RGPD, vous savez, ce qui permet de garantir aux citoyens la protection de leurs données de santé, qui sont des données très sensibles et qui en même temps ont une valeur très importante sur le marché.
Général de protection
d'où
des données.
La cybercriminalité qui se développe dans les établissements hospitaliers, parce qu'on sait que ces données médicales aussi peuvent être utilisées et vendues à toute une série d'institutions autres qui sont effectivement très très soucieuses de pouvoir récupérer ces données pour différents objectifs industriels ou autres. La donnée de santé, c'est une donnée très sensible et c'est une donnée qui doit être particulièrement protégée. Il se trouve qu'au CHU, nous étions déjà certifiés hébergeurs des données de santé, mais tout ce travail justement de gestion des données, on a des entrepôts de données aussi, on a un entrepôt de données de santé au CHU de Rennes qui nous permet à la fois d'utiliser les données pour la recherche, aussi pour l'évolution des traitements, pour le suivi de cohorte de patients, pour améliorer leur prise en charge et contribuer aussi à la recherche médicale et thérapeutique. Donc, la donnée de santé est effectivement une donnée très importante et qu'il faut pouvoir sécuriser au maximum.
Et quand elle n'est pas,
cas, sur laquelle il faut travailler et mettre en place des systèmes de gestion qui permettent d'aller vers une sécurisation de plus en plus importante.
Mais brièvement, quand elle n'est pas sécurisée au bout du compte et qu'elle se retrouve dans la nature, qu'est-ce qu'on fait ?
Là, on peut pas faire grand-chose.
Eh oui, c'est ça.
Parce que c'est trop tard, je dirais. Donc justement, on a pu limiter le vol des données dans cette cyberattaque parce qu'on a eu, j'ai pris cette décision très très rapidement, avant même de réunir la cellule de crise, de couper Internet, donc de s'isoler complètement. Ça fait partie des leçons, c'est-à-dire vraiment c'est la meilleure décision à prendre le plus vite possible parce que ça permet évidemment de limiter cette fuite de données, même si et ce vol de données, même si il a quand même eu lieu. Mais après, non, il n'y a pas grand-chose à faire, hélas.
Sûr.
Donc, de ce qu'on peut en conclure, c'est qu'il faut par contre s'y préparer par des exercices, par
sûr.
Un travail de sécurisation de systèmes d'information et par des certifications effectivement internes, externes de nos plans de sécurisation, de nos serveurs, de nos outils, de nos applications.
Gloria Origi, il y a deux choses. Vous nous disiez, on donne nos données volontairement, même si on sait que avec Cambridge Analytica, toutes nos données qui étaient sur Facebook sont parties, ont été utilisées par on ne sait qui d'ailleurs, on continue à être sur des réseaux comme Facebook. Ça ne nous a pas empêchés d'une certaine manière de le faire.
Voilà, donc Le cas Cambridge Analytica, je ne sais pas si les gens se rappellent, enfin, c'était en 2016, je crois, pendant cette société Cambridge Analytica avait trouvé la façon, à travers une application qui circulait sur Facebook, de récupérer les données de à peu près 50 millions d'usagers de Facebook. Et après, construire des messages politiques, publicitaires, de propagande, enfin, ciblés
pour chacun, en
ayant les données pour construire leur profil psychologique. Donc, avec des techniques psychologiques assez simples, ils ont réussi à faire tout ça. Et Facebook, bien sûr, a reçu un coup pour ça. Il y a eu un procès, il y a eu un hearing au Sénat aux États-Unis, etc. Mais au fond, il n'a pas fermé. Enfin, c'est Facebook, c'est maintenant un réseau social un peu vieux. C'est plutôt pour les vieux comme moi. Enfin, c'est les
comme
jeunes
nous,
préfèrent
vous pouvez dire.
Ouais, comme nous. Enfin, les jeunes préfèrent TikTok, Instagram, etc. Mais bon, mais quand même, il est encore là. Donc, ça veut dire que. Moi, c'est ce que je pense, parce que les deux personnes avant moi ont parlé beaucoup de données. C'est ce que je pense que les gens ne savent pas qu'est-ce qu'une donnée. Enfin, qu'est-ce qu'exactement ils donnent quand ils cèdent cet accès aux données. Donc, une réflexion, même une réflexion, question vraiment aussi épistémologique, philosophique, sur qu'est-ce qu'une donnée exactement, qu'est-ce qu'on perd, qu'est-ce qu'on donne aux autres, à qui appartiennent mes données médicales lorsque je donne l'accès à l'hôpital, à mes données. C'est encore une partie de moi ou bien c'est une partie qui appartient à moi mais qui appartient aussi à l'hôpital. Enfin, tout ça, c'est, on n'a pas encore une. Il y a des sciences des données, il y a la data analysis maintenant qui est la, disons, le business, le plus comme ça intéressant pour les jeunes, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est. Donc c'est différent. Enfin, si je dois donner un doigt de ma main, je sais bien qu'est-ce que ça veut dire me couper un doigt. Si je dois donner les données, je suis pas sûr que les gens comprennent vraiment.
Jean-Yves Marion, pour conclure justement cette question des données qu'on ne comprend pas, dont on ne sait pas comment on est découpé en tranches laser d'une certaine manière avec tout un tas de données dont on ne sait même pas qu'elles s'appellent une donnée et qui sont sur le net à propos de nos comportements.
Ah, je suis absolument d'accord avec Gloria Origi. On ne sait pas ce que c'est qu'une donnée. Par contre, on peut quand même le sentir parce que quand on voit les nouveaux outils tels que ChatGPT et autres, on se dit que quand même nos données servent à quelque chose parce que ChatGPT sans nos données, ça ferait pas grand chose. Ça ferait même rien du tout. Donc, on peut commencer à sentir que maintenant, il y a une transformation, on va dire, de la donnée qui est un objet complètement abstrait, dont la plupart d'entre nous n'ont aucune idée de ce que c'est, à quelque chose qui devient concret dans notre vie. Les outils d'intelligence artificielle, les outils de reconnaissance d'image, les outils qui vont nous suggérer d'acheter ceci ou cela, qui vont intervenir dans les réseaux sociaux, qui vont faire du faux contenu pour nous amener à faire quelque chose. Donc, on peut commencer à sentir. Mais on veut dire, beaucoup d'entre nous, on reste quand même des humains où on a effectivement besoin
des analphabètes numériques tout de même.
Exactement, exactement.
Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus débattre de cette question. Que se passe-t-il après les cyberattaques pour les institutions qui les subissent? C'était la question que nous avons posée à Gloria Origi, qui est philosophe, directrice de recherche au CNRS et professeure à l'École des études en sciences sociales. Son dernier livre s'intitule « La vérité est une question politique ». Il vient de sortir chez Albin Michel. Elle est également autrice de « Qu'est-ce que la confiance ?» chez Vrin, c'était en 2008. Merci à vous, Véronique Anatole Touzé, directrice générale du CHU de Rennes, d'être venue parler de votre expérience malheureuse, effectivement, d'avoir été victime d'une cyberattaque. Et merci à vous, Jean-Yves Marion, vous êtes professeur donc à l'Université de Lorraine, spécialiste de ces questions et membre de l'Institut universitaire de France. Le temps du débat a été préparé ce soir par Candice Bergeron, Juliette Mouélic, Roxane Poulain, Fanny Richet, Stéphanie Vindeuve, réalisé par Laurence Malonda, avec à la technique Florent Bujon.